La pieuvre.
En fait, la pieuvre, c'est complètement lié à une association qui s'appelle Le Crime et qui est née en 98. En fait, c'est assez important de refaire les origines parce que ça explique comme d'habitude toute la suite. Et donc, en fait, il y avait des musiciens, beaucoup sont là dans la pieuvre, qui avaient des groupes différents. Par exemple, Olivier était dans un de ces groupes, même s'il était déjà parti sur Paris. Et ces groupes se cohabitaient, bon, puis petit à petit, on se rencontrait dans des concerts, dans les rares concerts de musique improvisée, musique expérimentale, enfin, différentes choses comme ça, sur l'île. Donc on a commencé à faire connaissance, et en 98, il s'est passé plusieurs événements, il y a un lieu qui a commencé à s'ouvrir un peu à ces musiques, et qui a permis aux musiciens locaux de jouer, qui viennent du jazz, de musique expérimentale, enfin, des choses comme ça. Et puis, en même temps, il y a un lieu qui s'appelle La Malterie, qui a commencé à émerger, bon, de façon assez auto-organisée. Et donc, on a commencé à faire, enfin, quelques-uns d'entre nous ont commencé à faire un concert là-bas. Et donc, il y a une opportunité, un lieu, des gens qui se rencontraient, et puis, à côté de ça, des institutions, des salles qui ne s'occupaient pas du tout de cette musique. Donc, on a décidé de faire une association qui s'appelle Le Crime. Et quand on a fait cette association, on s'est dit, bon, on va organiser des concerts dans lesquels nous, on va jouer, mais on veut aussi organiser des ateliers informels, comme ça, histoire de provoquer des rencontres et de permettre de jouer avec différentes personnes, et puis aussi de faire venir des gens qu'on ne connaît pas, mais qui sont dans la région et qui ont envie de pratiquer l'improvisation, donc tout autour de l'improvisation. Les ateliers étaient complètement informels. Alors, au début, on était... une dizaine, et très rapidement, donc c'était une fois par mois en gros, et très rapidement, en même temps qu'on a commencé à organiser des concerts, on a vu des gens arriver, des différentes générations, différentes pratiques, différentes musiques, qui avaient envie de faire l'improvisation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand on a demandé, on était une vingtaine, et au début, on jouait tous ensemble, ça donnait n'importe quoi. Mais il y avait une force très grande qui était là, et on le sentait tous un peu. Et donc, y en a un ou deux parmi nous, enfin, je pense que ça a dû germer dans l'esprit de beaucoup de gens, mais il y en a un ou deux qui ont pris les choses en main, on va dire deux, et qui se sont dit, mais il faudrait que quelqu'un dirige. Mais qui pourrait diriger? Ah, Olivier Benoît, ça pourrait l'intéresser. Donc Olivier était déjà parti à Paris, mais il revenait souvent à Lille, on en a parlé, il a dit, ouais, ça m'intéresse.
Je suis pas sûr de ma note.
Ah, pardon ?
Je suis pas sûr. Je pense que c'est un do, mais je suis pas...
Guitariste et conducteur d'orchestre, Olivier Benoît multiplie les collaborations et les recherches dans différents domaines. performances pluridisciplinaires, musique improvisée, expérimentale, musique contemporaine, jazz, électronique. Un concert de la pieuvre est une composition d'humeur, orchestrée par conduction. Car il s'agit bien d'un phénomène électrique, à la manière d'un champ électromagnétique, attraction-répulsion, entre les gestes du conducteur et les instrumentistes. Lors de cette improvisation dirigée, les musiciens répondent de façon continue aux signes du conducteur. La conduction modifie profondément les principes fondamentaux de la pratique de l'improvisation collective. Des consignes strictes, à l'intérieur desquels les musiciens disposent d'un champ d'action et de liberté. À partir de ces propositions, le conducteur construit une forme. Il ne s'agit donc pas seulement d'un dialogue improvisé, mais véritablement d'un tout, d'une masse sonore modulable qui lie le temps d'un concert, le conducteur, qui garde une vision d'ensemble, et les musiciens interprétant librement les signes.
Les codes ont été créés au fur et à mesure, en fonction de ce que je voulais obtenir musicalement. Donc, dans l'idée, il fallait que ce soit le plus intuitif, que ça donne l'information la plus claire possible par rapport à ce que je voulais obtenir. Donc il faut que le signe soit très, très facilement compréhensible, en fait, à mesure de, qu'il exprime le mieux l'idée musicale. Donc à chaque fois, je fais une recherche de gestes par rapport à l'effet musical que je veux obtenir. Et il y a aussi toutes les nuances dans le signe, dans le geste. Donc le geste peut être fait avec différentes intentions, plus fermement, plus doucement, de manière plus volontairement, moins, pas trop précise par exemple, assez imprécise ou volontairement très précise évidemment, et avec toutes les nuances possibles entre ces différents types de jeux. Et également, il y a le regard qui ajoute en plus au caractère de la musique qui doit être jouée, enfin, de ce que je demande.
Ça va de gens qui sortent du conservatoire, qui ont un parcours classique, entre guillemets, à des gens qui sont complètement autodidactes, qui ne savent pas lire une note. Et pour la pratique instrumentale, c'est pareil. Il y en a qui sont extrêmement performants d'un point de vue classique, j'entends. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont... Et puis il y en a d'autres qui ont développé leur propre façon de jouer, donc qui n'est pas très orthodoxe, ce qui fait qu'ils n'auraient pas leur place dans un orchestre normal, mais qui ont leur propre façon d'aborder la chose qui est suffisamment forte pour qu'ils aient leur place dans la pieuvre.
On a un groupe qui s'appelle Mafalpa, qui est pas mal. Un groupe plus ou moins burlesque, voix, synthé, enfin sampleur et clavier. Et puis voilà, puis tout le monde joue avec tout le monde. Quoi. Et le batteur, Peter Reins, lui, il a monté un label. Et puis aussi, il a une grosse association qui gère un peu tout le jazz, qui se fait un peu, pas dans le Nord, mais bon. Donc il joue, tout le monde joue avec tout le monde en fait.
Dans des formations différentes.
Dans des formations différentes.
Mais voilà. Toujours de la... C'est quoi, plutôt jazz, improvisation?
Alors, c'est plutôt free jazz, improvisation. Bruno, lui, c'est du rock, quoi. Il adore ça. Bah, aussi, il fait pas mal d'impro.
Une autre caractéristique aussi de l'orchestre, c'est que ça fait pas un groupe, même ça fait un groupe comme ça quand on le voit sur scène, mais à l'intérieur il y a plein de sous-groupes, il y a des amitiés, des inimitiés qui peuvent être assez fortes, des gens qui ont l'habitude de jouer ensemble et d'autres qui jouent pratiquement jamais ensemble, dans différents styles, pas seulement l'improvisation, ça peut être le rock, la chanson, la musique contemporaine, le jazz. Et tout ça, c'est vrai que ça a créé une sorte d'émulation autour de l'improvisation.
Et en fait, quand tu fais un concert de musique improvisée, bah, ils sont là.
Mais ici, à Lille, il y a un circuit assez développé. Il y a ça dans toutes les villes, c'est typiquement...
Ah non, c'est à Lille. C'est organisé, très bien organisé par le Yannick.
Petit détour en suivant un des tentacules de la pieuvre. Patrick Guyonnet, chanteur, et son comparse Laurent Garcia ont tous les samedis matins une heure pour leur improvisation dans une radio locale. Ils se produisent à deux aussi pour des concerts, où les mots et les sons prennent les formes les plus improvisées.
les hautes herbes vertes, l'absinthe parfumé. Dans la prairie, un groupe de buffles c'est paisible. Le sommet de la brise les brides les hautes herbes vertes, l'absinthe parfumé. Un grand silence régnait sur la plaine. Dans la prairie, un nouveau. Le son. Vers l'anse. Un grand silence. Régnait sur la troupeau de buffles baissés paisibles. Un vieux buffle arrache. Un vieux buffle arracha de sale.
Le messager. L'odeur sur les rats s'échappe. L'odeur sur les surmets. Et sur l'odeur sur les rats s'échappe. L'odeur sur les rats s'échappe. L'odeur sur les rats s'échappe. Et sur les itureux. L'odeur sur les rats s'échappe. L'odeur sur les rats.
Ça y est, l'orchestre est continu et constitué. Alors, ce qu'on va commencer à faire maintenant, c'est du silence. Parce que pour faire de la musique, il faut savoir faire le silence. Sinon, on n'entend pas la musique. Hein, Roman ? C'est quoi silence ?
Nous sommes dans l'école primaire de la cuisine en Gaume, où nous avons invité Olivier Benoît à travailler avec des enfants. Une première dans cette école où il n'y a pas beaucoup de place pour la musique. Olivier Benoît a élaboré une technique d'improvisation adaptée aux enfants, basée sur ses nombreuses expériences dans des écoles, notamment à Brest et à Tourcoing.
Voilà. Et on va essayer de faire un vrai silence. Non, un silence... où on fait pas le malin. Vous allez fermer les yeux, vous allez écouter ce qui se passe autour de vous. Tous les sons que vous entendez, d'accord ? Au top, vous fermez les yeux, attention, et vous ne les ouvrez pas, hein. Je vous dirai de les ouvrir. Attention, top ! Là, ils ont pris conscience de... Ils commencent à prendre conscience de l'importance du silence. Et ça, en fait, ça balance au début. S'ils sont capables d'être concentrés, ça, ils ont ça vraiment, cette conscience-là qui vient au premier plan. Et évidemment, au bout d'un moment, ils se déconcentrent. Alors eux-mêmes se dispersent et du coup, on perd cette concentration. Donc ça balance tout le temps entre ces états. Mais en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une autodiscipline qui se développe, et ça c'est bien, parce que ça veut dire qu'ils ont pris conscience de ce que ça signifiait faire de la musique, et donc faire du silence pour pouvoir faire de la musique. Vous avez remarqué le nombre de choses qu'on entend en plus quand on ferme les yeux? On entend beaucoup, beaucoup plus de choses avec les oreilles. Enfin, les oreilles sont beaucoup plus loin pour entendre les sons. Et pour faire de la musique, c'est très important, ça. Il faut pas commencer à bouger, et il faut m'écouter aussi. Il faut pas bouger dans tous les sens. Alors, ce qu'on va commencer à faire, pour l'instant, c'est avec vos feuilles de papier, vous allez essayer de me trouver des sons différents. Des sons, d'accord? Donc, je vous laisse 30 secondes pour essayer, et ensuite vous levez le doigt pour faire une proposition. Allez, vous faites des essais, vous cherchez.
Oui. Ce que me disent beaucoup les instituteurs, institutrices, c'est que effectivement, au bout de toutes ces séances de travail, ils gagnent énormément en concentration, en général. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est pas non plus miraculeux, hein. Enfin, c'est, comment dire, ils ont une capacité de concentration parce que plus grande, parce qu'ils savent plus, ils savent faire le silence et ils savent pourquoi ils font le silence. Parce que le faire dans le travail qu'on a fait, c'est fondamental pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire de la musique. Donc ils prennent conscience de ça, donc ils savent que si on ne fait pas, on ne peut pas continuer. Et donc du coup, ça a aussi une incidence sur le fait d'être plus posé, certainement en classe, quand on leur demande de faire quelque chose. Ils ont cette capacité-là de se calmer et de se poser. C'est ce que m'ont dit les instituteurs, hein, notamment quand j'ai travaillé à Tourcoing dans des quartiers plus difficiles. Et ils m'ont tous dit ça, ils m'ont dit que c'était qui était impressionnant, c'est ça, c'est la différence, hein, entre avant et après. Et puis aussi, parce que, évidemment, c'est une aventure humaine, que ce soit pour les instituts ou pour les enfants, et donc ça provoque un imaginaire, des souvenirs, etc., qui sont très forts, et du coup, ça unifie le groupe aussi. La classe se sent solidaire, ils construisent quelque chose ensemble, ça c'est très important aussi.
On essaye tous ensemble, mais avant, on va trouver un signe. Qu'est-ce qui veut bien trouver un signe pour... Qu'est-ce qui veut trouver un signe? Vas-y. Un signe pour ce son-là. Et après, si tu le fais bien, je te demanderai peut-être de venir devant pour diriger tout le monde. D'accord? D'accord? Donc, je vais vous faire ce signe. Regardez bien. Regardez-moi. Attention. On y va. D'accord? Vous êtes prêts? J'attends le silence. Déjà, j'aimerais bien que tout le monde s'arrête en même temps quand je fais signe. Donc ça, c'est moins fort et de plus en plus fort. On peut le faire tous ensemble, le signe ?
Et alors, pour les enfants, où se trouve la différence entre le bruit et la musique ? Est-ce qu'ils l'aperçoivent ?
Alors, ils l'aperçoivent justement par l'importance qu'ils doivent accorder au silence. Et en fait, c'est par le fait qu'ils prennent conscience du silence, ils prennent conscience du moment où ils font de la musique et du moment où ils font du bruit. En fait, c'est le geste musical qui va donner qui va faire la différence entre le bruit et le bruit. Le bruit musical ou le bruit non musical, ou la musique tout court, la non musique. Et la pollution sonore, on peut dire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, on pourrait dire qu'ils ont fait à peu près la même chose, parce qu'on a très peu de moyens et très peu de temps avec leurs ustensiles. Avant que j'arrive, où ils essayaient un peu leurs objets, et puis après qu'on soit arrivé et qu'on a commencé à faire un travail comme ça de son. Sauf que au niveau du son, du bruit, c'est la même chose, mais au niveau de l'intention et au niveau de la pensée de l'enfant, c'est absolument différent.
Oui.
Et c'est ça qui est intéressant.
Un cross-modèle.
Un cross-modèle, c'est pas mal. Oui.
Une piscine.
Une piscine. Ah, pourquoi pas. Alors, on va voir juste le balayage. Vous vous souvenez, le balayage, c'est quand la main passe devant vous, vous jouez. D'accord ? Corentin, tu arrêtes de faire le son. Jordan.
Les enfants, par exemple, adoraient venir avec un objet pour me qu'ils avaient soit fabriqué, soit trouvé, dont ils avaient cherché le son chez eux.
Donc
ils avaient fouillé dans le garage, ou ils avaient cherché à faire sonner un objet ou un simple ustensile. Et avec cette recherche de son, parfois ils venaient en classe et puis ils nous montraient ah, j'ai trouvé ce son là quoi. Et tout fier, extrêmement fier d'avoir trouvé un son.
Le bruit d'un virus. Dans l'ordi. Pas ça.
Et ça, c'est l'étape dans son entier, quoi. Et la recherche du timbre, la recherche du son, plus que le frapper avec la baguette, qui est un peu, écrase un peu tout, quoi.
Alors, quand je désigne quelqu'un, il doit jouer. Et quand j'enlève mon doigt, il s'arrête.
Ça les ouvre à la musique dans le sens où, évidemment, ce que je disais aux parents d'ailleurs, j'ai eu des discussions par rapport à ça, où je sentais par exemple à Tourcoing, les enfants avaient de vrais instruments, alors qu'ils n'étaient pas même instrumentistes. Donc c'était assez. Bon, il y a eu toute une phase d'apprentissage hors norme, parce que c'est autodidacte en même temps et en même temps un peu guidé, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils cherchent des sons eux-mêmes avec l'instrument. Et on sentait une vraie sensibilité chez certains, une vraie capacité de conscience, par exemple une conscience du temps musical déjà très forte, ou de la construction, ou de la nuance, ou de toutes les possibilités de nuance, la capacité de jouer sur les paramètres musicaux. Et ça, avec les signes notamment, on fait tout ça. C'est-à-dire que les paramètres musicaux, ils les intègrent. Ils savent, après, ils vont savoir ce que c'est que fort, ne jouer fort, pas fort, jouer doucement, jouer avec beaucoup de silence, parce qu'on travaille aussi normalement là-dessus. C'est-à-dire que les enfants prennent conscience d'un jeu très dense, jeu musical très dense, ou d'un jeu musical très espacé, avec beaucoup de silence. Et du coup, ça va, ils s'imprègnent complètement de ces paramètres musicaux et ça influence évidemment leur écoute ensuite quand ils écoutent de la musique dite normale. On entre déjà dans la musique, évidemment. Même parfois de façon plus avancée que lorsqu'un enfant se présente dans une école de musique, donc qu'on lui donne un instrument et qu'on lui fait jouer directement. Un morceau technique où il ne comprend pas, où il ne va pas aborder l'idée de la nuance, l'idée de la densité avant de nombreuses années, voire peut-être jamais pour la densité, parce qu'il n'a pas de liberté de jeu. Il ne sera que interprète.
Là, tu vas devenir chef d'orchestre, toi ?
Oui !
Tu vas faire de la musique ?
Qu'est-ce
que tu vas jouer ?
Du tambour.
Bon, en tout cas, j'étais très content de vous rencontrer. Et puis, j'espère que ça vous donnera envie de vous faire des choses avec des instruments, avec des objets, etc.
Qu'est-ce que tu aimais bien ?
De taper.
Taper ?
Ouais, taper sur des trucs.
Oui ?
J'aimais bien faire de la musique.
Et qu'est-ce que c'est la musique ?
C'est chanter.
Ouais. Et on peut faire de la musique avec des objets comme ça, tu crois ?
J'ai bien parlé.
Ouais, dis-moi.
J'aimais bien quand on faisait la musique, il n'y avait pas beaucoup d'instruments et on faisait avec plein de choses parce que ça servait et puis... Et qu'il y avait aussi des instruments qui avaient des instruments et qu'il n'y en avait pas d'autres qui avaient des instruments. Et ils prenaient des choses simplement ou des baguettes avec...
Mais j'étais surpris, je pensais qu'il y en a qui seraient beaucoup plus dissipés. Enfin, j'en avais repéré ce matin, qui étaient beaucoup plus... Je pensais que ce serait plus dissipé en fait. C'est peut-être parmi ceux qui étaient les plus calmes.
Base de l'improvisation et pas celle du jazz.
Entre la musique contemporaine, le rock, le free rock, et puis avant on disait le free jazz, mais bon, la tendance qu'on a pris ces derniers temps, il n'y a plus beaucoup de
musique improvisée européenne,
même si
européenne,
américaine.
Par rapport à la
par rapport et puis aussi par rapport à l'indépendance par rapport au free jazz. C'est pas une musique qui vient du free jazz ou du jazz.
Il y a des gens qui font de la musique improvisée qui n'ont jamais, absolument jamais fait de jazz. Et qui à la rigueur n'en écoutent pas ou ne s'intéressent pas à ça. Mais par contre, pratique la musique improvisée.
Il n'y a pas vraiment de définition claire. En fait, l'improvisation au départ c'est plutôt une pratique, une façon de jouer plutôt qu'un style musical. Et bon, il se trouve qu'à un moment donné, ça s'est figé autour de certains musiciens qui jouaient d'une certaine façon. Donc en Europe, ça a pris une forme différente dans les années 70 en gros, avec ce qu'on appelle donc la musique improvisée européenne. Et puis après, il y a eu des nouvelles générations qui venaient plus du rock, de la musique électronique, qui a écouté, qui a fait l'histoire de la musique un peu dans le désordre, donc qui a d'autres références, les musiques qu'on dit extra-européennes ou traditionnelles ou savantes d'autres pays. Tout ça, ça fait des mélanges qui font que, bon, il y a plein de gens qui se revendiquent de l'improvisation, mais ce sera vraiment très difficile de mettre de l'ordre. Non. Ça se définit en général plutôt par exclusion, c'est-à-dire, et par famille de musiciens. Bon, il y a des familles qui sont plus autour du jazz et qui se reconnaissent les uns à les autres, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais l'improvisation aujourd'hui, enfin, telle que nous on l'entend, ça tire ses sources un peu quand même du free jazz, mais surtout du rock, de la musique contemporaine, puis de toutes ces musiques là, qui ont de la techno, enfin toutes les musiques électroniques qui sont sorties.
Ellipse s'inspire d'une rencontre qu'Olivier Benoît a faite avec le chorégraphe et danseur David Flao. Médecin à d'autres heures, David Flao a un lien très fort avec l'idée du corps à la fois médical et plastique. Pour cette pièce, chaque musicien doit utiliser ses propres battements de cœur comme une sorte de métronome très sensible, qui évolue individuellement en fonction de l'essoufflement, de la difficulté du jeu, de l'instrument joué, de l'émotion ressentie, de l'état psychique. Au fil de la pièce, Olivier Benoît modifie les règles de jeu qui font se transformer progressivement la musique. Thank you. Merci à Olivier Benoît, Yannick Miossec et les musiciens de La Pieuvre. Merci à Madame Ledoux et aux enfants de l'école de la cuisine. Avec l'aide de la communauté française de Belgique. Réalisation, Thierry Van Roy pour Les Grands Lunaires. Voix off, Christine Van Acker.